Il est 14h à la maison de la radio. Deuxième jour de vacances pour l'équipe de Par Jupiter. Tous sont partis se reposer. Tous ? Non. Quelques irréductibles se posent encore des questions métaphysiques.
Vous savez quoi, les amis ? Moi, je pense que le Père Noël, d'une certaine façon, il existe.
Ah ouais.
Enfin, l'idée du Père Noël, vous voyez ?
Ah oui, bah, tu veux dire la générosité, la bienveillance.
Voilà, c'est ça. Le débordement, la joie, l'allégresse.
Ouais, enfin, et quelqu'un qui offre des cadeaux gratos, quoi, ça serait bien, ça.
De toute façon, toi, t'as fait ta liste Père Noël, toi, Hippo, alors.
Évidemment. Ouais. Et j'ai deux, trois trucs à lui demander au petit mec qui fait bosser les lutins, là.
T'as raison, parce que c'est vrai que c'est un genre d'esclavagiste, le Père Noël.
Père Noël, si tu savais.
Voilà, je voudrais de belles idées de chronique. Me coucher le dimanche soir, l'esprit en paix.
Ouais, bah, tu voudrais de l'inspiration, quoi, en gros.
Bah oui, parce que l'art de la chronique, c'est avant tout de l'entraînement, du débordement.
Oui, de la joie, de l'allégresse, compris.
Tout comme l'art de la radio, n'est-ce pas, Charlie?
Ah bah ça c'est vrai, et c'est du sport. Hein. Père Noël, si tu savais.
Alors si m'entend, le petit mec qui survole le pays là, s'il pouvait nous laisser une belle radio de service public.
Rends la radio, Père Noël.
Ouais, les amis là, on est en vacances, on laisse un peu la lutte de côté, s'il vous plaît.
Ah bah ouais, mais on reprend à la rentrée.
Ah
alors,
oui, mais ça c'est, j'ai noté dans mon agenda, 6 janvier 2020, lutte finale.
Voilà. Oui bah note aussi, débordement, joie, allégresse.
2020, si tu savais.
Je note.
Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission qui descend le génépi de l'actualité pour digérer la tartiflette de la blague. Et à notre table aujourd'hui, nous avons deux invités. L'une est un petit peu la mascotte de l'émission.
Oh, oui,
calmez-vous, Michel Thor.
Michel Thor.
Mais l'autre est tout aussi familier parce qu'il a joué dans tous les films qu'on adore et dont on passe très souvent des extraits, c'est Jean-Pierre Darroussin. Donc nous voilà bien entourés pour ce début de soirée.
Très bien.
Soirée qui démarrera avec Maurice le coq, dont la propriétaire s'était retrouvée devant un tribunal parce qu'il causait des nuisances sonores selon ses voisins. Et Michel Thor va nous en parler parce qu'elle a vécu cette situation.
Avec ses ânes.
On abordera aussi le thème du travail après 70 ans. Est-ce un privilège ou une nécessité? Et bien sûr avec Michel, eh bien, la première partie de cette émission s'achèvera en chanson avec vous, Alex.
J'avais tout donné.
Arrivera ensuite Jean-Pierre Darroussin qui découvre avec nous le tout premier bilan de la suppression de l'ISF et la surprise. Elle aurait favorisé 5% des plus riches. Et quitte à parler des plus riches, parlons de Jeff Koons. Alors que Jean-Pierre Darroussin joue encore actuellement dans Art de Yasmina Reza, eh bien le bouquet de tulipes de Jeff Koons a été installé près des Champs-Élysées. Un sketch qui en appelle un autre. Une adaptation de Art où Hippolyte Girardot fait la surprise à Darroussin de venir lui donner la réplique. Alors Alex, vous êtes le sélectionneur officiel de l'équipe.
Que des cadeaux chroniqueurs sous le sapin, Charline. Clara Dupont-Monod nous parlera du livre de Monica Sabolo, Eden. Et puis Guillaume Meurice, évidemment, la gestion de crise de l'usine Lubrizol à Rouen. Qu'en pensent les Français? Pablo Mira a soutenu son idole, Éric Zemmour. Évidemment, c'est win-win. Et on terminera en musique avec Frédéric Fromet, qui nous chantera Greta Thunberg.
Et vous avez à cœur, Alex, de partager votre cadeau de l'année avec nos auditeurs.
Elle est là.
Voici donc Michel Thor.
Elle est là.
Enfin, Alex, je suis enfin avec vous. J'attendais ce moment, moi aussi.
Vous aussi, Michel.
Attends.
Ah là là, c'est beau.
Alors, on va mettre l'auditeur dans la confidence. Chers amis auditeurs de Par Jupiter, ça fait des années que, évidemment, on essaye d'inviter.
On se court après.
Michel Thor. Et on voulait faire la surprise à Alex Vizorek. Donc, pendant de nombreuses années, pendant cette émission, nous avons mis de faux noms d'invités sur le tableau des invités dans le bureau. Michel Thor s'est appelé Eric Orsena.
Sylvie Testu.
Barack Obama, à un moment donné.
Effectivement, ouais. Un jour, elle s'est appelée Rachida.
C'est vrai.
Ça lui a pas porté chance.
Exactement.
Et vous voilà aujourd'hui, enfin, Michel Thor.
Michel
justement...
disait, tant qu'il y a Alex, je ne viendrai pas, je ne foutrai pas les pieds dans cette émission.
Et voilà que vous venez nous présenter un nouvel album qui s'intitule Je vais bien, avec 12 chansons, dont des inédites, bien sûr. Vous êtes aussi en tournée, on donnera des dates pendant toute l'émission et très prochainement, on sera le 29 novembre à Saint-Loubès, c'est près de Bordeaux et de Libourne. Alex Vizorek.
Bah bien sûr que je l'ai écouté. Passé tout le week-end à l'écouter l'album de Michel.
Oui.
Alors vous parlez évidemment d'amour, on y reviendra. Mais il y a 3-4 chansons sur 12, c'est beaucoup, sur votre métier. Notamment, bah voilà, comment on monte sur scène, comment on écrit la première chanson, comment on la reçoit. Vous, c'est 50-50 carrière, plus de 30 millions d'albums, plus de 500 chansons enregistrées. Vous avez commencé à 16 ans, vous avez fait que chanter presque, Michel.
Pratiquement, oui.
Quel regard vous avez sur la petite Michel Thor de 16 ans qui, pour la première fois, prend le micro?
Oh, j'ai un regard attendri. Aujourd'hui, il y a quelques années, je vous aurais dit non, je peux pas regarder. Quelle horreur, ça me... Mais maintenant, je la regarde avec un regard attendri, parce qu'elle est pleine d'espoir. C'était... Et puis c'était sûr, hein, j'allais être chanteuse. Il n'y avait aucun doute. J'étais chanteuse,
Votre
déjà.
Votre maman n'avait pas pu l'être, parce oui, que la sienne vrai. N'avait pas voulu qu'elle c'est le vrai. Soit. Mmh. Donc vous avez, j'imagine, été soutenue, vous.
Complètement, oui, oui. Ma grand-mère n'a jamais voulu. Elle, maman était engagée dans une émission à Marseille, qui était présentée par j'ai oublié le nom.
Jean-Michel Drucker.
C'était pas Jean Noël.
C'était Jean Noël.
Voilà,
merci.
Vous me demandez si vous avez un problème sur votre carrière, moi je j'interviens.
On a l'expert. Et ma grand-mère a dit que c'était pas un métier convenable. Donc quand maman a vu que j'avais moi cette envie.
Et du coup, cette fille de 16 ans qui monte devant le micro, qu'est-ce qu'elle aurait pensé de la Michèle Thor d'aujourd'hui? Parce qu'il y a eu de la carrière derrière. C'est ça dont elle aurait rêvé.
La petite fille de l'époque, ce qu'elle pense.
De vous aujourd'hui et du parcours.
Eh bien, elle a vécu une partie de ses rêves. Elle a rêvé sa vie et elle l'a vécu. Elle a vécu ses rêves. Elle a eu de la chance.
Elle a travaillé pour.
Elle a travaillé, évidemment. Oui, elle a la chance et elle travaille beaucoup.
Quand vous dites une partie, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas réussi, que vous n'avez
non,
pas su
c'est
faire.
Pas, non, c'est pas ça. C'est que. Comment dire.
C'est pour vous laisser le temps d'encore avoir des
rêves. On voit que l'idéal, quand on est enfant, hein, on voit pas les problèmes et puis tout ce que ça demande d'investissement, de travail justement quoi. On voit le côté paillettes et puis voilà, je vais être chanteuse, je vais être connue, ça va briller, ça va.
Puis là, faut se taper des émissions de promo avec des ringards.
Chantait Bad News sur France Inter. La justice a autorisé le coq Maurice à continuer de chanter sur l'île d'Oléron. Sa propriétaire était assignée devant le tribunal par ses voisins qui se plaignaient des nuisances sonores.
Non.
Le coq Maurice s'ébrouait-il en zone rurale ou en zone urbaine? C'était toute la question. Alors, ils sont nombreux les contentieux entre les habitants du cru et les citadins en goguette à la campagne. Le cas de Maurice a fait grand bruit en zone médiatique, lui, et sa propriétaire est grandement soulagée.
Voici le poulet de madame.
Oh, mon petit poui-poui, que ça me meut. C'est pas beau, ça. Oh, où godez ça? On va dire bonjour à son papa. Hein, poui-poui, poui-poui. Bonjour, papa. Papa, poui-poui. Oh, c'est malin. Voilà qui va nous faire la tête pendant des heures. On a été sage pendant l'absence de sa maman.
On a cassé trois tasses à son réveil.
Ouh, et ton espiègle.
C'est Jacqueline Maillan dans Pouic Pouic, le film de Jean Giraud. Ouais. Maurice peut continuer à chanter. La justice l'a décidé ce matin.
Alors, Maurice libéré.
Je pense que c'est un sujet qui vous parle. Est-ce que vous n'avez pas connu un contentieux
de la sorte? Tout à fait. Oui, oui.
Racontez-nous.
Avec mon âne.
Rappelez-nous comment il s'appelait, parce que c'est drôle.
Oui. Écoute, c'est un peu le même genre d'histoire. Nous avions deux ânes et puis on nous a volé un âne, c'est incroyable.
Mais alors, ils étaient où les ânes? Chez vous, dans le sud?
Nous, ils étaient chez nous, dans le sud, oui. Et puis cet âne, restant là tout seul, s'ennuyait. J'ai rencontré un monsieur qui avait des animaux, qui avait une ânesse, qui avait des chèvres et tout, et qui me propose de prendre mon âne, qui était, franchement, qui était malheureux, qui était tout seul. Et tout. Donc voilà, mon âne part dans le Var, chez ce monsieur. Il est heureux, tout va bien, tout ça. Et les gens se sont, les habitants des alentours se sont plaints parce que l'âne les dérangeait le matin, les réveillait, enfin faisait du bruit.
Pourtant, il était en zone rurale, j'imagine.
Il était en zone rurale. Et alors, par contre, il a eu beaucoup de chance, cet âne. C'est que, donc, effectivement, il a fallu l'enlever, le changer de champ, l'amener ailleurs. Il a eu de la chance parce que 3 jours après, tout a brûlé dans la. Dans la région.
Il est sauvé.
Voilà. Alors, il s'appelait comment?
Il s'appelait, alors nous on l'appelait Casimir, mais les enfants l'avaient appelé Casimir, mais le monsieur l'avait...
Il l'avait rebaptisé
comment déjà?
Moi je sais.
Ouais, dis-moi.
Ça se fume, mais... Cannabis.
Ah oui,
cannabis.
Sans déconner. Oui.
Voilà pour ce sujet où il y a de plus en plus de cas qui sont médiatisés, notamment à Grignoles en Gironde. Il y a un couple de retraités qui a été condamné à combler sa mare au motif que les orgasmes tonitruants des grenouilles empêchaient les voisins de fermer l'œil.
Dans ces cas-là, non, faut pas aller à la campagne.
Eh oui. Clara Dupont-Mono, vous avez le micro, gardez-le.
En parlant d'orgasmes tonitruants, notre invité, c'est...
Mais il y en a, les cigales, il y en a que ça dérange. Les cigales en Provence.
Oui, venez, on ne fait pas la chronique de Clara, on parle animaux.
Mais qui repartent en ville.
Moi, j'aime les chauves-souris.
Qui repartent en ville.
Alors, notre invité étant Michel Thor, bon, je ne vous fais pas un dessin pour savoir qui est l'actu. Hein. C'est vous, Michel Thor, l'actu. Vous êtes notre breaking news, en quelque sorte. Et alors, parce que je savais que c'était vous, j'ai cherché un roman qui vous ressemble. J'ai cherché un roman blond et mélancolique. Ça existe. Et je l'ai trouvé. Ouais. Il s'appelle Eden, de Monica Sabolo. Pourquoi? Parce que les romans de Monica Sabolo, ils sentent la langueur et la grâce. Ils sont peuplés d'adolescentes qui ressemblent un peu à Charline, qui sont blondes avec des beaux cheveux blonds comme ça, des cuisses fuselées, des shorts en jean. Oh, mais à qui il arrive malheur. Ce n'est pas le cas de Charline. Alors, celui-ci, Eden, il sent d'abord la forêt. Parce que nous sommes aux États-Unis, dans une réserve indienne, en bordure d'une énorme forêt. L'intrigue tourne autour d'une adolescente. Alors, comme toujours hein, chez Monica, Monica Sabolo, cette adolescente, elle s'appelle Nita.
Elle allait au lycée comme les filles de son âge, mais elle avait toujours les yeux dans les nuages.
Mais oui, Michel Thor, à croire que vous avez lu ce livre, car Nita va au lycée en effet, mais elle est à part, elle est rêveuse, elle a les yeux dans les nuages, elle ne se mélange pas, elle n'est pas enjouée. Alors cela dit, dans ce coin, personne n'est enjoué. C'est comme si la forêt, en fait, confisquait la joie. Je cite Nita, elle dit « La forêt me donnait la nausée. Elle était la forme palpable du mensonge. Elle vous faisait croire à l'éternité, mais ce n'était qu'une illusion. Depuis le départ de mon père, elle était devenue pour moi le territoire de la pourriture. De la boue. » Donc vous voyez, on est quand même assez loin d'un dépliant écolo. Elle a raison d'avoir peur parce que c'est la forêt qui va engloutir sa meilleure amie, une jeune fille éthérée, blonde, Michel Thorienne, justement. Mmh. Et cette petite, elle va disparaître dans la forêt. Et à partir de là, le récit se fait plus dur, plus angoissant, un peu comme une forêt justement qui se referme sur quelqu'un. Et deux créatures assez éthérées, Nita devient force vengeresse. En fait, c'est un peu Anne Hidalgo avec le physique de la fée Clochette, en quelque sorte. C'est comme ça qu'elle devient.
Physique, imaginez-le chez vous, ça.
Voilà. Elle dit « J'étais animée d'une colère qui demandait à être nourrie. » Alors, ce qui pourrait la sauver, c'est un jeune garçon qui s'appelle Conrad. Son cœur bat quand elle voit Conrad, qui a l'air aussi spécial qu'elle. Mais rien ne dit que leur histoire sera aussi solide qu'un tronc d'arbre. Et ce que ressent Nita le soir pour Conrad, eh bien c'est vous qui l'avez chanté le mieux.
Lui, tu sais, il a les mots qu'il faut pour m'étonner. C'est vrai, il sait me faire sourire, consoler. Jamais je n'aurais pu penser qu'il s'en irait.
Mais Nita non plus. C'est décidément, vous avez lu ce livre et vous en parlez bien. Car Nita n'aurait jamais pensé non plus qu'il pourrait s'en aller. Ouais. Mais Conrad est parti et Nita, elle doit lutter toute seule.
Connard.
Allez, le livre est
vraiment. Elle a contrepété.
Mais c'est bien que vous ayez cette réaction parce que c'est exactement toutes les héroïnes de Monica Sabolo. Ouais, à chaque fois, elle vous décrit des adolescentes qui sont finalement des jeunes filles combattantes. Et elles doivent lutter contre quoi ? Contre ce passage vertigineux et extrêmement violent qui s'appelle « Je passe de l'adolescence à l'âge adulte ». Qu'elles en sortent victorieuses ou non, ça c'est une autre histoire. Mais ce que je trouve très beau, c'est justement cette lutte parce que certaines transitions, oui, sont des violences. Alors, je vous rassure, ça se termine bien. Et il reste... Ah. Oui, mais vous allez partir avec ce livre. Parce que après ça, il reste l'exquise impression.
Chez votre joie.
Je ne sais pas si j'ai le courage de revivre.
Non, vous allez voir.
Surprise la semaine prochaine.
Parce que après, à la fin du livre, il vous reste une exquise impression. C'est un très très beau livre. L'exquise impression que les traits d'union, parfois entre deux périodes de la vie, peuvent être violents, peuvent être périlleux, mais que sans eux, on pourrit sur place. Donc, tant qu'à faire, autant marcher dans une forêt en écoutant Michel Thor.
Il y a du positif en tout.
Exactement. Et à la fin, c'est très beau. Je vous redonne les références. Eden de Monica Sabolo est paru chez Gallimard et vous partirez avec. Et vous me remercierez.
Clara Dupont-Monod. Merci Clara.
Merci.
On va aborder très rapidement un dernier sujet avant une grosse surprise de fin d'émission.
Eh oui, il y a l'ami Fromet qui va débarquer.
Effectivement.
On vous a préparé une petite chanson, Michel.
Alors, la retraite à 62 ans ou à 64 ans, et l'âge pivot, et les annuités, et la couleur des charentaises. Travailler après 70 ans, est-ce un privilège ou une nécessité ? Il paraît que 70 ans, ça peut être l'été indien de la vie professionnelle.
Dans deux ans, au revoir, monsieur, dame. Je serai à l'échelon 7. Les mômes sont élevés. J'ai ma cabane en Dordogne. La retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde.
C'est Robert Dalban dans Les Barbouzes de Georges Lautner. Cette question, 70 ans, est-ce que quand on travaille, c'est un luxe ou une nécessité ? Alors, Michel Thor, bon, aujourd'hui, vous n'avez que 27 ans. Mais quand vous aurez, quand vous aurez 70 ans, est-ce que vous pensez que vous aurez encore envie de travailler ?
Oui, mais écoutez, c'est loin tout ça, je pense. J'imagine que...
Dans le milieu artistique, l'article, la Tribune précise que dans le milieu artistique, évidemment, il y a beaucoup d'artistes qui, après 70 ans, travaillent...
Ferait mieux de prendre la retraite.
Non, pas du tout, justement.
C'est pas ce qu'il dit, Michel, c'est pas ce qu'il dit.
Non, alors, la Tribune dit un privilège ou une nécessité.
Ouais.
Je vous pose la question.
En ce qui me concerne, c'est un privilège. C'est parce que, je vous disais tout à l'heure, c'est un besoin vital pour moi de monter sur scène.
Donc c'est les deux. Un privilège et une nécessité pour vous, mais pas spécialement financière.
Exactement, oui, finalement.
Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, comme Hervé Villard ou Michel Sardou, on dit à un moment on fait nos adieux parce qu'on n'arrive plus à chanter les chansons qu'on voulait ou qu'on aimait chanter.
Je crois qu'ils se sont plantés. Hein,
on les salue.
Ils nous l'ont prouvé.
Non, mais plus généralement, c'est l'idée souvent que la vieillesse elle est associée à la sagesse. Ça vous parle ou au contraire, vous êtes complètement contre cette idée ?
Ça me parle, mais ça n'empêche pas. La sagesse, c'est...
L'idée de calme, l'idée de... Ouais. On n'a plus le rythme trépidant du travail, on n'a plus de commandes à rendre.
Elle a vu les dates de tournée.
Voilà, ça vous...
Mais c'est surtout faire ce qu'on a envie de faire. Je travaille différemment quand même, même si avec toutes les dates que vous avez annoncées tout à l'heure, c'est quand même assez chaud. Déjà, je me produis. Je fais ce que j'ai envie. On ne me dit pas, on devrait...
Chanter ci ou chanter ça.
Voilà, comme c'est arrivé quand j'étais très jeune. Je produis mes disques. Je les vends sur mon site. J'ai de compte à rendre à personne. Voilà, je produis. C'est moi qui... Je me fais plaisir en faisant des concerts. Et puis voilà, c'est vraiment... du plaisir, c'est l'envie toujours. Hein, je crois que
comme vous dites, là, il y a beaucoup de dates de tournée, donc comme vous dites, c'est chaud. Et si vous avez chaud, le 7 février, vous jouez à Mouilleron le captif dans le 85.
Ah, ça pourrait être du Christophe Maé.
Et alors lui, Alex Vizorek,
qu'est-ce qu'il va nous reprendre?
Écoutez, donc il y a deux micros dans ce studio. Il y a Frédéric Fromet et Alex.
Et voilà, on va vous raconter comment on vous a attendu si longtemps, Michel.
Aujourd'hui, ça fait 5 ans que toi, tu l'espérais.
Sur Inter, c'est pas évident, tu sais.
Car ici, ils préfèrent les deux lermes, les biolets.
Et la voix de Juliette Armanet. Mais ce soir, j'ai envie de moi-même playlister.
Le chef de la musique fait un AVC.
Pas Christine ni ses Queens, et l'homme pâle ferait bien de bronzer. Ce soir, c'est Michel, l'invité.
Emmène-la danser ce soir.
Joue contre joue, dis-moi, je suis cougar.
Tu fais la cour assez maladroitement.
Comme si entre nous il n'y avait pas 17 ans.
Emmène-la danser ce soir.
Flirtons ensemble sur du Hervé Villard. Timidement, dis-moi, Alex, tu me kiffes. Amoureusement, je te répondrai affirmatif.
C'est vrai qu'on a déjà invité Isabelle Aubray et Sheila. Et parmi tes chanteuses préférées, il y a Dave et Nicoletta.
Enfin, j'ai eu raison, tu es avec nous, Madame Thor. À tort ou à raison, dans le transistor. Et ce soir, je voudrais encore te garder. T'envoyer chez Trapnar, Nagui et Salamé.
Fini les Jamaded, les Angèles en pleine puberté.
Ce soir, laissons-les de côté.
Emmène-la danser ce soir.
Joue contre joue et dis-toi que dans le noir, Jean-Luc Lahaye n'a pas toujours pris le temps de leur demander si elles avaient bien 17 ans.
Emmène-la danser ce soir.
Flirtons ensemble sur du Daniel Guichard. Timidement, dis-moi, Alex, au fond, on est plus sexy que le couple Macron.
Bravo les gars.
Merci Frédéric Fromet.
Merci. Ils s'embrassent. Ça y est, enfin, Alex Vizorek, Michel Thor réunis sur un texte d'Alex Vizorek.
Et Frédéric
Fromet. Une petite réaction,
bravo,
Michel.
C'est génial. J'adore.
C'est la première partie de votre Olympia quand vous voulez.
Encore beaucoup d'émotions, Alex, ça se sent. Hein. Deux semaines après, c'est...
Transpire de la moustache,
d'accord,
comme
très bien. Alors, je vous propose de sortir, prendre un peu l'air, grâce à Guillaume.
L'air, et pas le bon air, puisque nous allons parler de Lubrizol.
Ah,
ben oui,
pas de bon.
Évidemment. Et Guillaume, évidemment, a voulu connaître l'avis des Français sur la gestion de crise du gouvernement.
Ben oui, je vais vous parler de la pollution à Rouen aujourd'hui. Ça s'arrange pas, ça se diffuse. D'ailleurs, en arrivant ici ce matin à la maison de la radio, ça puait le poney crevé. Mais c'est après que j'ai pigé, en fait, c'est parce que c'était Jean-Marie Le Pen, invité de la matinale pour vendre son bouquin. Putain, Léa Salamé, quand elle fait barrage contre le Front National, elle rigole pas du tout. Hein. Putain, oh la vache, la prochaine fois que Robert Ménard il lance une marque de fringues ou un tuto macramé, elle est là. Hein. Oh, bon, on n'est pas là pour parler de Léa ni de Jean-Marie Le Pen, même si Chirac était surnommé 5 minutes douche comprise et Jean-Marie Le Pen 5 minutes couche comprise. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler de catastrophes industrielles, comme par exemple le spectacle de Pablo Mira, qui est là, c'est Céveso, je vous le rappelle. Mais surtout celle de Rouen et la fameuse usine Lubrizol, où il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ont dit les autorités, avant de cracher du sang par les oreilles et de s'envoler avec les trois ailes qui leur ont poussé dans le dos. Alors, au cas où il y ait un petit peu lieu de s'inquiéter quand même, je suis allé au grand congrès de la sécurité et de la protection qui avait lieu aujourd'hui. Ah, ça, c'est quand même le coup de bol. Que des professionnels de la protection de ce genre d'usine, quoi. Et ça tombe bien, il y avait une partie du salon consacrée à la gestion de crise. Deuxième coup de bol. Et ça tombe encore mieux. Je suis tombé sur une société qui a travaillé sur la crise de l'explosion à Lubrizol.
Concrètement, notre société a su sécuriser avec succès la ville qui est voisine de Lubrizol à 200 mètres et qui est ni plus ni moins que la ville du Petit Quevilly.
Donc vous êtes tout à fait rassuré et rassurant sur la situation.
personnellement, je suis allé faire mon footing au parc Monceau hier soir. Je n'irai pas faire un footing aux abords du petit QVI, du grand QVI ou à Rouen.
Alors non, pas rassurant. C'est pas rassurant. Non. Agnès Buzyn, elle a bien dit la qualité de l'air ne pose aucun problème, mais elle n'a pas précisé seulement si vous êtes un poêle à charbon. Hein, là, vous pouvez aller courir, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Ou si vous êtes Michel Houellebecq, là, vous risquez rien. Une attaque nucléaire, une invasion de criquets musulmans, rien ne vous arrête. Alors on enchaîne pour se rassurer avec un autre professionnel de la gestion du risque.
Je crois que c'est comme souvent dans ce cas de catastrophe que c'est justement un amalgame de diverses raisons, allant d'erreurs humaines à problèmes techniques et voilà. Donc.
Est-ce que vous pouvez nous rassurer quand même?
Voilà, le rire qui rassure bien, c'est le même rire que lorsque vous demandez à la direction de Radio France, est-ce qu'il y a de l'amiante dans les murs? Même rire. Alors l'astuce c'est d'enchaîner sur une question sur le salaire de Nagui. Normalement il dit non, bah alors je vais vous répondre sur l'amiante plutôt. Bon, alors en tout cas, bon, pour l'instant on n'est pas hyper rassuré. Alors allons voir un autre professionnel.
Je suis obligé d'avoir le droit de réserve par rapport à ça.
Ah c'est vrai, vous n'avez pas le droit d'en parler?
Non, c'est pas que j'ai pas le droit de parler, c'est, je ne peux pas me permettre de dire des choses comme ça. Ça peut être mal interprété et j'estime avoir un droit de réserve dans ce domaine.
Ah bah ça me rassure pas des masses.
Je peux pas me permettre.
Alors ça c'est la technique, je sais des trucs mais je peux pas trop les dire. C'est une technique qui a été utilisée au tout début de la crise de Lubrizol quand tout le monde demandait mais quels étaient les produits qui avaient cramé. L'usine répondait non, on préfère pas trop vous dire en fait. Non, ça va être mal interprété. Vous aimez toujours pas les cancers? Non, ça va être la merde. Alors on vous dit rien. Mais depuis ils ont été obligés quand même de le dire. Plus de 5000 tonnes de produits chimiques qui ont cramé. Donc c'est l'équivalent de 3 pelotons du Tour de France ou de 2 visages de Mickey Rourke. Alors retournons voir les spécialistes de la gestion de crise. Est-ce qu'elle est bien gérée, cette crise?
J'espère qu'elle est bien gérée, mais il est certain qu'on ne dit pas toute la vérité sur ce qui s'est passé.
Mais est-ce que bien gérer une crise, c'est dire la vérité?
Bien gérer une crise, est-ce de dire la vérité? C'est une très bonne question.
Merci. J'attendais une bonne réponse. En fait, il n'y a pas eu. Comme les habitants de Rouen qui attendaient ça. Alors, la maire a dit qu'il fallait que tout le monde soit solidaire de cette usine qui appartient donc à Warren Buffett, hein, je vous rappelle. Donc, moi-même, j'ai créé une cagnotte Litchi qui s'appelle « Fous-toi bien de notre gueule, gros ». Donc, mobilisez-vous. Allez-y dessus. Mais côté gouvernement, Édouard Philippe se veut rassurant. Alors, retournons à voir la gestion de crise pour parler d'Édouard Philippe.
Il doit être entouré de personnes compétentes. C'est son rôle à son niveau.
Édouard Philippe, il est entouré de personnes compétentes. Est-ce qu'on est sûr de cette information?
J'ai dit, il doit être entouré.
Ouais.
Voilà, c'est un devoir.
Oui. Bah, il est au Conseil des ministres, hein, donc ça pue la compétence. Il tourne la tête, il y a Castaner. De l'autre côté, il y a Brune Poirson. Si t'es allergique à la compétence, t'es mal. Je te dis tout de suite. Et puisqu'on parle de compétence, j'ai gardé le meilleur pour la fin, avec une usine qui fabrique des détecteurs de fumée. Qui a été victime de quoi?
On a eu un incendie également sur notre site et pour autant, les systèmes ont déclenché. Voilà, il y a un système incendie et là pour prévenir et pas pour éteindre l'incendie.
Le système d'incendie a fonctionné,
bien sûr,
mais ça a quand même brûlé des détecteurs de fumée.
Ouais, mais si vous avez le feu chez vous, c'est pas votre détecteur de fumée qui va vous empêcher d'avoir un incendie chez vous.
Est-ce que c'est rassurant ça?
J'ai pas d'autres commentaires à faire sur le sujet, je vous remercie.
Ben, C'est moi qui vous remercie, surtout que c'est un exemple qui illustre parfaitement la situation d'un gouvernement censé nous protéger et qui, en plus de l'usine Lubrizol, nous en fume tous les jours.
Le soleil, seul soleil, surplombe. Soleil, seul soleil, survole-nous. Le soleil me dévore quand vient l'aurore. Il m'appelle. Le soleil. C'est encore comment faire à présent. Me réveille. Le soleil chassera la peine. L'envoleur a même dans le vent.
Du soleil, chanté par Laura Cahen. Et voilà qui annonce l'arrivée dans ce studio de Jean-Pierre Daroussin.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Jean-Pierre Daroussin.
Ouais, j'ai appris mon texte.
Mais oui. On était tout guilleret de savoir qu'on allait passer une heure avec vous et nos auditeurs aussi. Vous jouez dans Art, la fameuse pièce de Yasmina Reza. Vous jouez aux côtés de Charles Berling et Alain Fromager. C'est au Théâtre Antoine, du mercredi au samedi à 21h, les samedis et dimanches à 16h.
Oui, alors évidemment, je connaissais la version 1 de 98 avec Arditi, Lucchini, Vanek de Art, qui est un des rares classiques vraiment du théâtre contemporain. C'est-à-dire que si vous tapez les 50 plus connues pièces de théâtre françaises, il n'y en a qu'une dont l'auteur est vivant, c'est Art. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une sorte de dîner de cons pour un télo ? Est-ce que j'ai bon ? Jean-Pierre Daroussin.
Je ne connais pas le dîner de cons. Ah bah.
J'avais préparé une super question punchy pour ouvrir. Et... Non, mais vous voyez le principe.
Oui, je connais quand même le principe de la pièce du dîner de cons. Et donc, le con, ça serait c'est moi ça dans la pièce dans Art. C'est,
en fait, le con tourne. Parce que j'ai l'impression que quand en tant que spectateur...
Le con tourne, c'est pas mal. C'est bien vu, ça.
Parce qu'il est envoyé en orbite souvent. Hein, on l'a dit souvent.
C'est même à ça qu'on le reconnaît. Mais quand on est spectateur, à chaque moment, on est un morceau des trois, et donc on est un morceau le con de l'autre. Et au final, c'est peut-être ça la morale de la pièce.
Ben, c'est une morale générale. On est toujours le con de quelqu'un d'autre. Hein. Les gens se positionnent, arrivent à garder une autorité sur les autres en se pensant moins con. Mmh. C'est comme ça qu'on évolue dans le monde. Ça rassure parfois de se sentir moins con que les autres. Et puis aussi, parfois, on est attiré par des gens que l'on pense moins con, effectivement, que nous.
Et nous recevons Jean-Pierre Daroussin. On va apporter le premier thème de cette émission avec vous. Depuis 2 ans, on se demandait, mais à qui profiterait la suppression de l'ISF?
Ah oui,
toute attente, c'est aux 5% des plus riches.
C'est vrai?
Pour l'instant. Hein, pour l'instant. Au moment de la suppression de l'ISF, il y a un comité qui a été chargé de suivre la réforme.
Ouais.
Ce comité d'évaluation a remis un premier rapport avec cette conclusion. Les 5% des plus riches obtiennent un gain même de 6 500 € par an. Le rapport admet qu'il est fragile parce qu'il est basé sur seulement 9 mois de statistiques. Ah. Le ruissellement viendra donc peut-être plus tard. Mais en tout cas, ceux qui pouvaient déjà se payer un costard peuvent déjà s'en payer un deuxième, c'est déjà pas mal.
Il me semble qu'il y a comme une erreur.
Pardon ?
J'ai plus d'argent qu'avant.
Ah, ce sont les plus-values de vos placements ?
De mes placements ?
Oui.
Vous voulez dire qu'avec tout ce que j'ai claqué, j'ai quand même gagné 5% ?
C'est-à-dire, on a été un petit peu prudent.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. C'est une mauvaise blague.
C'est l'une de nos répliques cultes. Ah, si j'étais riche, bien sûr, le film de Michel Munz et Gérard Bitton, où vous donnez la réplique, Jean-Pierre Daroussin, à Roger Van Hall, me semble-t-il, qui interprète le directeur de la banque.
Absolument.
Alors, vous aussi, vous avez été surpris, Jean-Pierre Daroussin, non ? C'est là donc la réforme de l'ISF.
Rappelez-le parce que
Donc, il transformait un impôt sur la fortune immobilière a profité donc, apparemment aux 5% des plus riches selon un rapport,
c'est bizarre,
premier rapport.
Quand même. Hein. Ouais, c'est quand même assez fou.
Oui, après, les mecs s'étonnent qu'on les appelle les présidents des riches.
Les ultra riches. Maintenant, ils en sont
C'est pas bon.
Ouais. Donc, vous trouvez que c'est pas usurpé comme terme alors pour Emmanuel Macron ?
Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent maintenant, Jean-Pierre ?
Ben non, justement.
Dans les 6e%, c'est.
Non, il se trouve que je n'étais pas assujetti. mais donc ça va pas changer grand-chose pour moi. Mais quoique, finalement, l'immobilier, j'ai fait l'erreur d'acheter un appartement, tout ça. Donc au bout d'un moment, je vais finir, alors que j'aurais dû mettre mon argent à la banque pour que la banque puisse finalement prospérer et voilà. Donc c'est, en fait, c'est plus les 5% des riches sont des gens qui travaillent certainement beaucoup avec les banques. Ça doit être ça, puisque c'est principalement aux banques que ça bénéficie. Donc c'est plutôt un cadeau aux banquiers. Ce qui est normal, parce que c'est les banquiers qui gouvernent un peu d'une certaine façon.
Coupez le micro de la personne. Allez-y, coupez le.
Donc quand on est au pouvoir, on a plutôt tendance à vouloir faire des cadeaux aux gens qui gouvernent, puisque c'est eux qui ont le pouvoir. Donc si on veut exercer un peu de pouvoir faire des lois de temps en temps, il faut évidemment graisser la patte.
Vous avez été élevé par des parents communistes, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez connu des périodes d'espoir, des périodes où vous avez cru possible un certain équilibre?
Mais
où il y a toujours eu de l'utopie
Non, mais moi, je ne suis jamais sorti de cette période-là.
Ouais, non, mais
vous cachez même pas votre espoir.
Même si, évidemment, je vois bien que je vois bien qu'on va dans le mur à une vitesse de plus en plus vertigineuse et que ça risque de faire très mal. Mais malgré tout, peut-être qu'on, je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, on va se retourner.
Mm-hmm. On sera allé trop loin.
Peut-être on va se retourner et qu'on va regarder un peu plus. On va freiner, peut-être.
Aller vers un autre mur, peut-être.
Voilà, un autre mur, peut-être.
Un genre de flipper avec une voiture, quoi. C'est... Voilà.
Mais
c'est
vrai. Par freiner, vous voulez dire. Vous parlez de décroissance.
Si on se retourne, je pense que c'est effectivement. Il y a quelque chose à voir de ce côté-là, il y a quelque chose. On voit bien que la société industrielle qui nous a amené à un capitalisme florissant, cette société industrielle, elle a certaines limites. On a essayé de la réguler, on a essayé de faire des choses, même si beaucoup de gens pensent qu'il faut justement que ce soit pas régulé pour que ça fonctionne vraiment très bien. Mais en fait, c'est faux. Là, on parle, ouais, on utilise le mot ruissellement. C'est magnifique comme mot ruissellement. On a l'impression que c'est naturel. C'est comme si c'était naturel, mais non, c'est pas naturel. Il faut réguler tout ça. L'argent, ça ne coule pas tout seul. C'est pas naturel. Ça ne va pas aller chez les gens naturellement. Il faut faire des lois pour que ça existe. Il faut contraindre le capitalisme. Il faut contraindre. On fait pousser de l'argent un peu partout. C'est plutôt bien. Ça crée de la richesse. Mais la richesse, elle existe aussi avec le non-argent. Il faut créer de la richesse avec du non-argent.
Jean-Pierre Daroussin, restons sur cette jolie phrase.
Oui, non.
Mais si, bien sûr.
Mon MacBook, je ne l'ai pas acheté avec du non-argent.
Justement,
il n'y a pas que...
C'est l'heure d'appeler la police, tant il est illégal d'être aussi beau. Je parle de vous, oui. Pablo Mira. Pablo, mon petit ange trapu, vous revenez sur l'affaire Zemmour et vous avez décidé de soutenir le polémiste.
Ouais, ma louloute. Aujourd'hui, je défends publiquement celui qui a décidé de rayer de sa vie les Arabes et les abdos. Et quand on y pense, quelle drôle d'ironie de l'histoire que cette affaire Zemmour. En l'an 732, Charles Martel repoussait les Arabes à Poitiers. En 2019, ce sont les Arabes qui repoussent le cerveau d'Éric Zemmour en 732. Mais je vais vous dire, c'est son droit de penser ce qu'il pense et surtout, c'est son droit de le dire. Lui aussi, il a le droit de faire du mal à l'image des Arabes. Ce privilège ne doit pas être le monopole de Sami Nasseri. Parce que franchement, si en France, aujourd'hui, on n'a même plus le droit d'appeler un chat, et un musulman un dangereux terroriste assoiffé de sang et violeur de femmes, où va-t-on ? Je vais vous dire d'ailleurs où on va. On va vers la mort de la liberté d'expression. Donc soutenir Zemmour, c'est soutenir cette liberté d'expression. Donc c'est être Charlie. Vous serez d'accord avec moi là-dessus, Charline. Taisez-vous, Charline ! Taisez-vous ! C'est insupportable, votre attitude, là ! Aujourd'hui, vous pourrissez le débat ! Avec votre attitude médiocre ! Les auditeurs, ils le voient, Charline. Là, j'ai des messages, je reçois des messages, je vous lis. Poussin, n'oublie pas d'acheter du mascarpone. Bon, ça, c'est ma maman. Mais quand même, Charline, quand même.
Pardon.
Infernal. Allez. Ce sont des gens comme vous, Charline, hein, des gens des merdias, qui exagéraient sans cesse en osant qualifier le discours de Zemmour, de xénophobe, sans jamais apporter de contrepoint. Tiens, tenez, moi, je vous ai fait une compile de tous ces messages où ils véhiculent un message positif et rassembleur Zemmour. On y va.
Bonjour,
Voilà. Donc vous voyez,
il faut arrêter de toujours noircir le tableau, de traiter les gens de racistes. Hein. Zemmour, il parle rude. C'est vrai, mais c'est pas un raciste. D'ailleurs, j'aimerais qu'on écoute Gilles William Golnadel, avocat et sosie capillaire de Margaret Thatcher, sur AMC, c'était le 1er octobre.
C'est pas parce que vous êtes condamné pour avoir proféré des déclarations qui sont racistes que vous êtes raciste dans votre entier.
Ben oui, Zemmour, il est pas raciste dans son entier, il est raciste de 10%. C'est son mollet qui aime pas les Arabes. Et oui, je vais même aller plus loin. Moi, quand je le vois, Zemmour, je vais vous le dire, ça va vous choquer, mais moi, je pense à Rosa Parks. Hein, comme elle, Zemmour se bat pour que les minorités puissent monter dans n'importe quel bus, à condition, bien sûr, que ce bus soit en partance pour Tunis, et sans retour, et sans système de freinage, au passage. Moi, ma théorie, c'est que le lanceur d'alerte, Éric Zemmour, est victime d'une injustice islamo-gauchiste, aux ordres de la bien-pensance et de Rack Island sans... Ah pardon, excuse-moi, bingo. J'ai le bingo de droite, là, je l'ai. Ça fait plaisir. Il me manquait pourriture de fonctionnaire et j'avais le super bingo de droite. Mais la réalité, Charline, c'est que les gens ont peur de Zemmour parce que le discours de Zemmour est un discours de vérité. Car ses détracteurs se voilent les yeux sur le projet politique de l'islam que Zemmour a très bien percé à jour en le comparant à une forme de nazisme. Oui, l'islam ne souhaite qu'une seule chose, c'est la grandeur de l'Allemagne. Mais ouvrez les yeux, bon sang, l'islam veut conquérir le monde. Techniquement, l'islam est partout. Il suffit de sortir dans la rue pour constater qu'on n'est plus chez nous. Hein, mon boucher, il est arabe. Mon coach de Zumba, il est arabe. Mon épicier arabe du coin, il est chinois. Bon, mais oui, mais réveillez-vous, les amis. On vit à la mode arabe. Ça y est, ce midi à la cantine, on a mangé du couscous, comme les arabes. Alex doit cumuler 8 jobs pour s'en sortir, comme les arabes. Quant à Charline, elle prononce le mot 8 comme un blédard de Warzazat. C'est infernal. Allez, pour conclure, je pourrais continuer à défendre les propos de Zemmour pendant des heures, mais normalement, il devrait bientôt le faire lui-même tous les jours sur CNews. Donc, si je devais résumer son intervention tout à fait pondérée et pertinente à la convention de la droite, je dirais poulala, j'ai peur, musulman, méchant, peur, peur, haine, bagarre, peur, haine, j'ai jamais aimé Faudel. Voilà, un résumé. Salut.
Merci, Pablo Mira. Jean-Pierre Daroussin, lui, joue au Théâtre Antoine en ce moment.
C'est maintenant.
Et on va en parler. Car Paris s'apprête à accueillir un nouveau... une nouvelle l'étude de Jeff Koons, oui, voilà, en fait, d'accord. Voilà, l'artiste qui vend des brolles les plus chères au monde. Et là, c'est un machin de 34 tonnes et 13 mètres de haut, une main qui sort du sol et brandit un bouquet de tulipes ballon coloré. Voilà, c'est coloré, c'est original. Ça crée tellement l'enthousiasme qu'on ne savait pas où les mettre. Ça a pris un an au moins. Mais voilà, c'est un cadeau des États-Unis à la France, une marque d'amitié après les attentats de 2015 et de 2016. Et encore, on a échappé aux autres projets de Jeff Koons, bien sûr.
Et dites-moi alors, cette sphère-là, posée sur ce socle...
Là, la sphère, c'est le projet que j'avais présenté pour la pyramide du Louvre.
Ah bon?
Oui, c'était une pyramide à un seul côté, c'était un projet très intéressant.
C'est très original, en tout cas.
Mais ça a été refusé.
Refusé, hein.
Là, c'est...
Et ça, alors...
Oui, là, c'est le projet que j'avais fait pour la géode de la Villette.
La Villette,
c'est une sphère pyramidale.
Bien sûr, c'est évident.
C'est un projet, c'est refusé.
Refusé, ben je...
Et là, vous reconnaissez bien sûr les... Ça, c'est la colonne de Buren.
Colonne de Buren, bien sûr, je reconnais, là.
Et mon projet était allé beaucoup plus loin.
Et sinon, vous êtes en mauvais terme avec Buren ou...
Oh non, Buren est un ami très cher. Mm-hmm. D'ailleurs, tous les soirs, je dors avec un pyjama qu'il m'a dessiné.
C'est les inconnus, hein. C'était pas Yasmina Reza. Alors, ça nous fait furieusement penser à Art et à l'élément modificateur de la pièce.
Qui est ce tableau tout blanc.
Est-ce que c'est le même type de réaction qu'ont beaucoup de gens à la vue de ce cadeau de Jeff Koons et des États-Unis à Paris ou...
Il y a, alors, évidemment, dans les arts plastiques, l'évolution, le travail, le regard de certains galeristes, la façon dont les gens arrivent à décider de la qualité ou de la non-qualité de quelque chose, c'est ce qui fait la différence. Et ce qui fait la différence surtout, c'est l'argent qu'on peut mettre. C'est, quand on met beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de reconnaissance. Donc c'est aussi encore une histoire de domination. C'est encore une histoire de dominant, dominé. Et donc, il y a une certaine catégorie d'art que se sont arrogés les riches, je dirais, d'une certaine façon. Et ça leur permet d'exercer, là aussi, une domination sur le goût. sur de déterminer qu'est-ce qui représente l'art contemporain.
J'ai entendu la porte de ce studio grincer.
Oui, parce que c'est l'heure du sketch. En fin d'émission, ouais. Jean-Pierre Darroussin propose un sketch à l'invité. Ah oui. Et on voulait faire une sorte de nouvelle version d'art. Et on s'est dit, on va vous amener un ami de 20 ans, peut-être. Parce qu'on en a un dans l'équipe. On a Hippolyte Girardot, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez bien l'invité?
Bah oui, parce que c'est aussi incompréhensible quand il parle que moi. Donc ah ouais.
C'est ce que je me suis dit sur
vous
Jeff Koons. Exactement.
Ils sont copains. Je vous vois bien dire.
Exactement.
Alors, exactement.
On vous a donné le texte et on a essayé de faire rentrer l'actualité dans cette logique de art. Vous êtes des amis de 20 ans, vous allez rendre visite l'un à l'autre et vous découvrez non pas un tableau blanc, mais quoi ?
Mon ami Hippolyte a acheté le livre de Jean-Marie Le Pen. C'est un livre noir, très noir. Mon ami Hippolyte est un ami depuis 20 ans, et même plus que ça. C'est un garçon qui a bien réussi, il est comédien.
Oh, mais c'est dada.
Appelle-moi Jean-Pierre, je préfère.
Oui, bon, qu'est-ce qui va pas ?
C'est quoi ce livre que tu as acheté ?
Quoi, la radio pour les nuls ?
Non, l'autre.
Ah, l'autre, c'est des mémoires. C'est un type qui a vécu plein de choses au 21e siècle. Hein.
Mais c'est pas un type.
Ah bon ?
Mais c'est Jean-Marie Le Pen !
Ah, mais tu le connais.
Cher,
22,90.
Hippolyte, tu n'as pas acheté ce livre à 22,90.
Eh, mon vieux, c'est le prix sur Amazon.
Tu as acheté cette merde ! 22,90 !
Mon ami Jean-Pierre, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, une belle situation, un César, un Molière, fait partie de ces gens que le cinéma a complètement perdu. Depuis cette relation avec Angelina Jolie, il a développé une arrogance stupéfiante. Tu l'as lu ?
Sûrement pas.
Alors comment peux-tu juger ?
Excuse-moi, mais je préférais que tu me dises que tu as perdu un pari ou...
Non, justement.
Quoi, justement ?
Eh bien, je l'ai acheté pour découvrir sa plume, son regard sur le monde qui nous entoure.
T'as pas besoin d'acheter son livre pour découvrir son regard sur le monde. Il suffisait de fermer un œil.
Oh, oh, mais quel trait d'esprit. Mais tu devrais travailler sur France Inter, toi.
Et qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Tu vas le poser au-dessus de ta cheminée? Et
je vais sans doute le faire dédicacer, t'inquiète.
Non, c'est pas possible. Pas toi. Oh. Mon ami Hippolyte me trouve trop fermé. Moi, je trouve qu'il perd pied depuis qu'il fréquente Pablo Mira. Et ce sera quoi, la prochaine étape? La quénote de Zemmour ?
Oh, mais ça y est, tu exagères tout. Eh bien, après, peut-être, je vais le chroniquer, ce livre, dans Par Jupiter, voilà.
Ah, alors ça va.
Quoi, ça va ?
Mon ami Hippolyte a toujours aimé parler. Il a une belle voix, et le fait clairement. Et chaque mot est bien prononcé. On ne peut pas le confondre avec un autre. En revanche, j'ai mis bout à bout, et il n'a jamais été très clair.
Eh, mon ami Jean-Pierre, après 20 ans et plus... me connais bien.
Et voilà qu'arrive l'homme et son instrument, si j'ose dire.
Oui, Frédéric Fromet, sa guitare, vous voulez dire.
C'est ça.
Oui, j'avais des petits doutes. Car il va parler, évidemment, d'une jeune fille qui a été la personnalité de l'année, Greta Thunberg.
De Time Magazine,
vous voulez Magazine. Dire. C'est ce que je voulais dire, bien sûr.
Gimme, 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 un vieux schnock, un réac, aussi utile qu'un emploi fictif sous Chirac. Gimme, 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 un vieux schnock, un pauvre gars, aux idées aussi dégueu qu'un steak de soja. Finkel crotte plutôt que de baver sur Greta, la dénigrer, tu ferais mieux de reprendre du LSD. Du LSD, mais évidemment du bio, demanda Bernard Pavot, et peut-être que vous lâcherez Greta. Y a d'autres Suédois qu'Ikea et Greta, gna 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 gna. Gimme, 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 un vieux schnock périmé, qu'on en fasse de la bouse de vioc recyclé. Gimme, 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 un vieux schnock, un débris, qu'on lui coupe ses deux petites baies de goji. Gna 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 gna. De compostage, vous qui traitez Greta de petite conne. tonne. Dans quel bac vous jetez, vous n'êtes pas adapté aux zéro déchets. Gimme, gimme, gimme un vieux schnock rétrograde. Pour nos toilettes sèches, on saura pourquoi c'est crade. Gimme, gimme, gimme un vieux schnock minable. Qu'on en fasse de l'engrais éco-responsable. Gimme, gimme, gimme l'extinction des pollueurs. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Gimme, gimme, gimme une terre en bon état. Notre maison brûle et les concibles Greta. Gna 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 gna.
Et nous arrivons au terme de cette émission, Alex. Mais ça veut dire qu'il y en a une demain, bien sûr. Vous voulez savoir avec qui, j'imagine.
Oui, j'adorerais.
Nous recevrons la philosophe Julia de Funès et le journaliste économie François Langlais, qu'on va découvrir sous un angle beaucoup plus littéraire. Donc, soyez au rendez-vous demain.
À demain.